Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est le prochain scandale. Il y a des enfants partout, a dit au New York Times Vincent Doyle, un fils de prêtre irlandais qui a appris à l'âge de 28 ans que son parrain prêtre était en réalité son père. Il a décidé de mener l'enquête et créer un site pour aider les gens dans sa situation. Au cours de ses recherches, raconte le Times, dans un papier du 18 février donc, il a découvert l'existence d'un document secret au Vatican, une sorte de guide pour les prêtres qui se retrouvent malencontreusement, si on peut dire, dans la situation d'être père. Je peux confirmer que ces directives existent, a alors déclaré le porte-parole du Vatican, Alessandro Ghisotti, au même journal, tout en précisant qu'il s'agissait d'un document interne. Cette annonce a fait l'effet d'un petit séisme au sein de la communauté des chrétiens qui y a vu une avancée dans la reconnaissance de ces enfants condamnés au silence. Mieux encore, pour la première fois, jeudi 13 juin, des représentants français de l'Église catholique, la Conférence des évêques de France, ont rencontré des enfants de prêtres grâce à l'association Les Enfants du Silence qui entend offrir une tribune à tous ces enfants, je cite, dont l'Église catholique refuse presque d'admettre l'existence. La rencontre a été qualifiée de bienveillante par le Figaro et une prochaine réunion est prévue le 1er octobre sur le thème des archives. Rappelons que les prêtres catholiques sont tenus au célibat et à la chasteté, ce qui n'est pas le cas dans les autres églises chrétiennes. La règle existe depuis les débuts de l'Église catholique, mais n'est pas vraiment respectée jusqu'au XIIe siècle. Et encore, on se souvient de Rodrigo Borgia, par exemple, alors qu'il était prêtre, il eut 4 enfants avec sa maîtresse avant de devenir le pape Alexandre VI. Enfin, dans son récit « Entre ciel et terre », sachez que le pape François écrit, lui, qu'un prêtre qui violerait dans un moment de passion ou d'égarement son vœu de chasteté peut rester dans l'Église, mais pas un père de famille. Complexe et douloureuse question qui illustre tout de suite 3 récits d'enfants, la fin de l'Omerta, on ajoutera un point d'interrogation, et ce sont des récits recueillis par Karen Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Léa, j'ai 40 ans, j'habite à Paris. Mon père, il est né dans une famille dans le sud de la France. Il avait 4 frères et 2 sœurs. C'était l'époque donc, de la guerre 39-45 et ses parents ont été tués pendant la guerre. Donc il s'est retrouvé sans parents, orphelin, ils étaient mineurs, tous les enfants. Et concrètement, ils ont été recueillis par les religieux du coin. Quand ils ont eu 18 ans, ils sont tous partis faire des études. Mon père est parti à Lyon. Au bout d'un an, il a arrêté les études et il s'est dit « je veux devenir religieux ». Voilà. Moi, ma théorie, c'est que c'est par gratitude envers les gens qui lui ont sauvé la vie d'une certaine façon. Alors quand on est religieux, on fait des études assez poussées. Il a fait 7 ans d'études dans un séminaire, il a fait de la théologie, de la philosophie. Il a fait tout ça et dans ce cadre, il était prof dans une école catholique, prof de philo. Et dans cette école, il a croisé ma mère, qui était prof de français, et il est tombé amoureux. Et à partir de là, il s'est dit « bon ben, je veux changer de vie, me marier, avoir des enfants ». Ça fait 20 ans que je suis religieux. Donc il a demandé au pape qu'on le relève de ses vœux. Il a demandé une réduction à l'état laïque, ça a pris plusieurs années. En fait, c'est quand vous demandez à retourner dans la vie civile, entre guillemets. C'est-à-dire vous n'êtes plus religieux, vous êtes levé de l'exercice sacerdotal, comme on dit aussi. Et à partir de ce moment-là, vous êtes comme vous et moi. C'est-à-dire vous avez droit de vous marier, de toucher un salaire, de payer des impôts, etc., etc. Alors mai 68 était passé par là, donc il n'était pas le seul à le demander. Mais ça restait très compliqué parce qu'évidemment, c'était une question taboue. L'Église voulait le garder dans ses rangs. Quoi. Ils n'avaient pas envie qu'il y ait une hémorragie de gens qui quittent l'Église. Mais il l'a eu, ça a mis 2 ans. Quand il l'a obtenu, il s'est marié. Et après, il a fait des enfants. Donc moi, je suis née la première et j'ai 2 frères. Il avait une 40aine d'années. Et en fait, quand vous sortez de l'Église catholique, vous sortez d'une certaine façon tout nu, vous êtes démunis parce que Vous ne pouvez pas vous inscrire à Pôle emploi comme ça, parce que si vous arrivez et vous dites « Bonjour, j'étais curé, théologien, qu'est-ce que vous me proposez ?» Donc, ce n'est pas facile. On n'a jamais su en fait payer d'impôts, payer des factures, parce que quand on est prêtre, on est pris en charge totalement par l'institution. Donc, mon père, il a dû faire un apprentissage de la vie quotidienne qui était assez compliqué. Et surtout, il a dû chercher un nouveau métier. Et justement, le premier travail qu'il a fait, c'était encore d'enseigner dans une école privée catholique, parce que c'est ça qu'il avait fait avant. Et c'est là que ça a commencé à se corser, parce que c'était un petit village du sud, tout petit, donc c'est des gens du pays qui se connaissent tous. Mon père, il débarque avec une famille. Les gens se renseignent sur lui. Et peu à peu, les gens découvrent que, 3 ans avant, il était religieux à Lyon. On a d'abord reçu des lettres anonymes de menaces. Du style « Va-t'en, tu n'as rien à faire ici, tu vas perturber nos enfants, tu vas leur inculquer de mauvaises valeurs », parce qu'il enseignait donc à des enfants dans cette école privée. Ça a commencé comme ça. À partir de là, quand il y en a eu plusieurs, mes parents sont allés porter plainte. Après, il y a eu les colis avec des excréments dedans, des rats cloués sur les portes, on a tué nos animaux de compagnie. Notre chien était parti chez le voisin d'en face. Le voisin nous a appelés pour nous dire « votre chien, il est mort ». Et donc, il avait été tué, il y avait des coups de couteau dans son corps. Le message était clair, le message c'était « allez-vous-en ». Mais il y a eu le début d'incendie criminel, c'était la nuit. Donc moi, j'ai aperçu des flammes un petit peu, il y avait un peu de fumée. Très vite, mes parents ont vu qu'il y avait un problème, et très vite, c'était une maison individuelle. Et très vite, ils ont appelé les pompiers, puis voilà. La maison n'a pas été complètement démolie, mais on a déménagé quand même. On a déménagé. Et donc à partir de là, les policiers, ils ont dit « Bon, écoutez, soit vous quittez le coin, soit on vous met un peu sous protection. » Et donc la protection, c'était notamment de ne pas aller à l'école, parce que ça aurait pu être dangereux pour nous. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
7-8 ans, je pense. 7-8 ans, ouais. On me disait rien de façon directe, mais je voyais, j'ai vu le début d'incendie. J'ai vu mes parents se liquéfier quand ils recevaient des courriers bizarres. Je leur disais, c'est quoi ces courriers, c'est quoi ces colis, pourquoi je vais pas à l'école? Et c'est comme ça, au bout de plusieurs interrogations, qu'ils ont fini par me dire, ton papa, avant, il avait un métier qui est mal vu maintenant, il travaillait dans une église, il était curé, enfin, ils ont simplifié. Mais moi, je me souviens de l'angoisse de mes parents, surtout, parce que moi, je voyais pas trop les gens à l'extérieur. Je me souviens de l'angoisse. J'avais froid tout le temps, c'était bizarre. J'avais une espèce de sentiment de froideur en permanence. Mon père, il a voulu résister un peu, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je trouve qu'il aurait dû partir tout de suite. Et on est parti au bout d'un an de ce traitement-là. On est allé dans une grande ville, et là, l'anonymat des grandes villes fait qu'on n'a plus de problème du tout, quoi. Et il a commencé à faire une formation de kinésithérapeute, ça a duré pas mal de temps. Et à partir de là, il s'est mis à exercer tout simplement son métier. Et donc là, ça s'est bien passé dans la mesure où personne ne savait trop ce qui avait pu se passer, ça allait. Mais du coup, on s'est quand même caché, liste rouge, on ne met pas notre nom de famille sur la boîte aux lettres, c'est un peu dangereux. Et on avait relativement peu de vie sociale. Déjà parce qu'on connaissait pas grand monde en arrivant dans cette ville, et puis que, mine de rien, une espèce de méfiance s'était installée vis-à-vis des autres gens, vis-à-vis de tout le monde, quoi. On n'avait pas tendance à se faire tellement d'amis. Mes frères et moi, on est allés dans une école publique. À l'école, c'est pareil, on était un petit peu isolés. Mais c'est nous qui voulions être isolés, parce qu'on avait un peu peur, mine de rien. Et pour ce qui concerne la religion, c'était le néant, quoi. Voilà. C'était une page tournée, vraiment. On s'occupait plus du tout de religion. Plus du tout. Quand je suis devenue adolescente, je me suis posé des questions sur les 20 ans de vie qu'il a passé dans la religion, quoi. Pour moi, c'était un trou noir. Donc j'ai essayé quand même de le questionner. Il voulait pas trop me dire où il était. Enfin, ça restait très vague. J'ai essayé de parler aux gens de sa famille, à ses frères et sœurs. Vu qu'il avait quitté la religion et qu'eux étaient assez catholiques, ils ne voulaient pas en parler. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Alors mon père, après, donc, Il est décédé, il a eu une maladie, il est décédé. Quel âge il devait avoir 50 ans peut-être. Et moi j'étais mineure, je ne sais plus quel âge j'avais. Enfin, voilà. Je suis allée très récemment dans une église du 13e arrondissement, là où j'habite. Je suis allée voir une messe. Alors pour moi c'est un peu exotique, hein. J'y suis allée en ethnologue, je voyais le prêtre qui faisait bouger son encensoir, etc. Pour moi c'est un peu la quatrième dimension. Parce que je me dis que mon père, il a fait ça, et je ne comprends pas trop. Mais bon, voilà, je regarde un peu de façon extérieure. Puis je vois les gens dans le public, pareil, ils font des signes de croix. Je trouve ça très, très bizarre. Et puis je me dis, c'est pas ma place. Parce que si ce curé, il savait qui je suis, il serait pas très content que je sois là. Donc j'y suis allée une ou deux fois pour voir, et puis j'y suis plus retournée. Il y a très, très peu de gens qui le savent. Hein. J'ai deux, trois amis très, très proches que je connais depuis le collège, et qui sont très proches, et eux le savent. Mais je leur ai dit de le dire à personne, et ils tiennent parole. Je le dis jamais, parce que mine de rien, je me dis que bon, l'humanité n'est pas forcément très bienveillante, et j'ai un peu peur, même si je pense que ça n'arriverait pas, mais j'ai un peu peur d'avoir à nouveau des ennuis, qu'on m'embête, d'avoir des courriers et tout. Donc je reste quand même pas mal cachée sur cette situation, je le dis jamais, quoi. Ça vous déglingue un peu, hein, il faut reconnaître. J'ai dû me faire aider avec un psy pendant plusieurs années, parce que j'étais pas bien, ça c'est sûr. Donc oui, ça m'a fragilisée. C'est aussi pour ça que je le dis pas trop, parce que notre société, elle accepte pas trop les gens fragilisés. Voilà. Enfin, c'est gravé dans ma tête quand même, tout ça. Toutes les images violentes, tout ça, c'est des images que je, voilà, qui restent, et ça s'effacera jamais, de toute façon. Donc... C'est des séquelles, ouais. Quelque chose qui vous plombe au-dessus de la tête, qui est présent, voilà, toujours.
Je m'appelle Anne Oxford, j'ai 58 ans. Et j'habite dans les Yvelines. Alors, je suis née en 1961. Ma mère et mon père étaient tous les deux chrétiens, donc catholiques. Et en fait, nous allions à la messe tous les dimanches. Hein. Mon père n'insistait pas les fois où j'avais pas envie d'aller à l'église. C'est toujours ma mère qui m'a ramenée vers l'église et qui m'emmenait avec elle à la messe en disant « mais si, voilà ». Mon père, en 1964, il a perdu un rein. Ben, il a vécu toute sa vie avec un seul rein. Il est mort, je sais plus quel âge j'avais, enfin il est mort en 99. Voilà. Alors, j'avais 44 ans, je travaillais à ce moment-là, donc en tant qu'assistante sociale. Et sur l'heure du déjeuner, ma mère m'appelle au travail. Et puis elle me dit, écoute, il n'y a rien de grave, mais avec ton oncle, parce que mon oncle était arrivé, j'ai un oncle qui est prêtre et qui est en Israël, qui était là en ce moment en France, eh bien on a quelque chose à te dire. Voilà. Alors, j'étais très surprise par ce coup de téléphone, parce que ça n'arrivait jamais. Donc j'y vais. Et puis là, maman ne parle pas, c'est mon oncle qui me dit... écoute, j'ai une belle histoire à te raconter. Ton père a été prêtre pendant 13 ans avant de rencontrer ta mère. Alors là, ça a été un peu, un choc forcément. Mais en même temps, ma première réaction, c'est très drôle, hein, ça a été, c'est un plus dans ma vie. C'est vraiment ça qui m'est arrivé tout de suite. Et il a été prêtre, ça veut dire qu'il a été encore plus près du Seigneur que moi je peux l'être. Enfin, je pense que c'est tout ça qui s'est passé dans ce plus. Et puis, ça a duré une demi-heure et moi, je suis retournée travailler. J'en ai tout de suite informé mon mari qui, rapidement, a fait des liens en me disant, bah oui, et puis, ton père, il était toujours en costume et les prêtres portent beaucoup des costumes. Hein. Et c'est vrai que mon père portait toujours un costume. Pour moi, ça a été le début de la reconstitution un petit peu du puzzle de ma vie. Hein. Et là, j'ai fait des tas de liens. Je me suis rappelé, une des premières choses que je me suis rappelé, c'est en effet dans le grenier à la maison, il y avait, c'était un endroit, un endroit où mes parents cachaient les cadeaux de Noël. Donc voilà, on y allait régulièrement. Et ben un jour, on a découvert cet endroit-là avec mes sœurs. Et puis, j'ai découvert le ciboire en fait de mon père, le calice et le ciboire. Un calice et un ciboire, puisque à ce moment-là, on savait pas que c'était celui de mon père. Et puis, j'ai été voir mes parents. On a été voir nos parents. Et alors là, alors heureusement, il y avait un prêtre dans la famille. Donc, ils ont dit, oui, c'est au frère de son père. Voilà. Et puis, il n'en avait plus besoin puisqu'il est parti dans un autre pays. Et donc, voilà. Mais ça voulait dire qu'il l'avait gardé quand même. Mon père, en fait, il avait un petit frère, donc très vite, à cette époque-là, on faisait des études pas chères quand on allait au séminaire, on ne nous demandait rien. Donc à 12 ans, ils ont l'un comme l'autre été au séminaire. Et le jour de son ordination, il voulait pas y aller, c'est-à-dire qu'il voulait dire non. Et là, son directeur de conscience qui était là lui a dit « Arrête, vas-y, allez, vas-y ». Donc après, il a été vicaire dans une paroisse. Et la mère de ma mère faisait du catéchisme. Et la mère de mon père, eh bien, venait régulièrement dans cette paroisse. Elles se sont rencontrées toutes les deux. Et puis, elles ont bien sympathisé. Ma mère a rencontré mon père aussi, forcément. Et puis, jusqu'au jour où mon père a commencé à aller de plus en plus mal. Et il a fait une dépression. Et ma grand-mère avait une maison de vacances en Normandie. Et elle a invité le prêtre et sa mère à venir se reposer pendant les vacances. Voilà. C'est à cet endroit-là qu'en fait mon père a déclaré sa flamme à ma mère. Et moi, c'est un endroit où j'allais, quand j'étais gamine, chercher le lait à la ferme. Donc on descendait, c'était en bout de la rue avec le pot au lait, voilà, on allait chercher le lait, on le ramenait. Et c'est exactement dans cette démarche-là, quand ils allaient en allant chercher du lait, que mon père a fait sa déclaration à ma mère. Donc c'est beau en même temps. Ça a été le commencement d'une belle histoire d'amour, mais en même temps de quelque chose de très très compliqué. Pour ma mère, c'était terrible, parce que ça voulait dire épouser un prêtre, c'est absolument pas possible. Donc moi, je vais être damnée. Enfin, c'est comme ça qu'elle vivait les choses à cette époque-là. Mon père, du coup, il s'est marié en 1960. Il s'est marié civilement, voilà. Moi, je suis née en 61. Ensuite, en 64, j'ai eu une autre sœur qui est née. Et en 64 aussi, il a été relevé de ses vœux par Paul VI. Et la cause retenue, ça a été que, justement, le jour de son ordination, il ne voulait pas être prêtre. Et que c'était, entre guillemets, comme un abus de pouvoir un peu de son directeur de conscience qui l'avait dit « Mais si, faut y aller, allez, vas-y, voilà ». Donc, il a eu l'autorisation de se marier à l'église. Il y avait interdiction que la famille de ma mère assiste. Donc, il y avait mon père, ma mère, la mère de mon père et un sacristain qui faisait office de témoin. Et c'est tout. Et là, on leur a dit. Et c'est ça qui enferme tout. Et là, on leur a dit, surtout, vous n'en parlez à personne. Vous n'en parlez à personne. Donc voilà ce qui s'est passé et pourquoi ma mère est encore dans cette culpabilité-là. C'est ce poids du silence, toujours de la révélation. J'ai dit à maman, mais en fait, j'ai dit, mais pourquoi maman? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Et elle m'a dit, j'avais peur, j'avais tellement peur que vous me rejetiez. Vous, mes trois filles, quoi. Voilà, on les avait mis dans un silence tel, et elle avait vécu un tel rejet que c'était pas possible. Et si mon oncle n'avait pas été là, je pense qu'on l'aurait jamais su. Je pense vraiment qu'on l'aurait jamais su. Elle nous l'aurait jamais dit. J'ai eu beaucoup de regrets. Énormément de regrets de ne pas avoir pu parler de tout ça avec mon père. Donc moi, c'était de la tristesse et du regret. C'est comme ça que ça s'est traduit beaucoup. J'ai eu beaucoup de colère envers l'Église, pas envers mes parents. Parce que mes parents, ils étaient dans la crainte, ils étaient dans la peur, et j'ai compris qu'ils nous avaient protégés. Je fais beaucoup de retraites, hein, donc c'est comme ça qu'aussi que petit à petit les choses s'apaisent en moi par la grâce de Dieu. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Marie-Christine Miquel, j'ai 60 ans, j'habite à Toulouse depuis une dizaine d'années. Je suis née à Bordeaux en 1959 et à l'hôpital, ma maman a accouché toute seule. Alors, maman était étudiante en médecine, puis elle travaillait comme interne en pédiatrie à Trousseau. J'étais une enfant seule avec sa maman, mais qui finalement avait beaucoup de contacts avec d'autres personnes, enfin une ambiance assez vivante, malgré tout. Je posais pas de questions. Deux ou trois fois j'ai entendu le mot bâtard, mais je voyais bien que j'étais différente. J'ai posé la question, je me souviens très bien, une fois à mon grand-père, qui lui-même n'avait pas la réponse et le regrettait. Mais voilà, donc c'est un silence qui est insidieux. Voilà, il y a une espèce de sidération mentale par rapport à ça, en tout cas pour ce qui me concerne. L'été 68, nous sommes en vacances et nous sommes dans la voiture, on va je ne sais pas où, et je suis donc à l'arrière d'une petite 4L. Et ma maman me dit, demain nous allons aller au restaurant et tu vas rencontrer ton père. Et voilà, et les choses en restaient là. Je lui faisais toute confiance, donc ok, on va rencontrer mon père, très bien. Donc, je vois quelqu'un qui est jovial, qui est très content de me voir, qui a des petites lunettes, qui a pas beaucoup de cheveux, qui a un drôle d'accent et qui raconte des blagues d'Astérix, comme moi j'étais très fan. Voilà, donc il sait faire rigoler, et je voyais bien que ma mère était ravie. Donc après, ce qui a été marquant, c'est que le moment où il a rencontré le reste de la famille de ma mère, donc il avait mis son plus beau costume et ses plus belles chaussures, mais enfin ça faisait pas la paire avec ceux de mon grand-père ou de mes oncles, et c'est vraiment presque caricatural, quoi, parce que lui il fumait des gauloises, mon grand-père fumait des Cravena, lui il aurait bien aimé un Ricard, ben non, on buvait du whisky, enfin voilà. Donc il y avait quand même un certain malaise lors de la première rencontre, et je me souviens que spontanément j'ai mis ma main dans la sienne en disant bon ben voilà, j'ai choisi mon camp, ben maintenant voilà, ça y est, j'ai un papa, et puis Bon, et puis les choses se sont... ils se sont mariés très rapidement. Hein. La rencontre était en août, et en septembre, ils étaient mariés. J'avais pas vraiment d'idée de ce qu'était un prêtre. Je l'ai compris plus tard. Ma question, c'était plus... Qu'est-ce qui peut justifier d'attendre si longtemps, de laisser de côté sa femme, son enfant, enfin voilà, de m'abandonner, hein. Mon père est né en 1925. Il est avec son frère jumeau dans une petite ville du Tarn qui s'appelle Cordes-sur-Ciel. Et donc c'est une ambiance de gens très catholiques. Donc il a décidé d'être un représentant de Jésus, enfin, au sens littéral de l'évangile, au fin fond d'une paroisse, ou bien avec des ouvriers, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont dans les bidonvilles. Enfin, il ne se voyait pas du tout faire la messe en latin, etc. Donc ce n'était pas du tout ça son but dans la vie. Voilà. Donc après, il se retrouve dans une petite paroisse du 13e arrondissement à Paris, qui s'appelle Saint-Hippolyte. En 50-51, il y a des laïcs qui participent, qui à la vie de la paroisse, qui les aident. Et parmi ces laïcs se trouvent donc des jeunes filles qui viennent des beaux quartiers. Et donc ma mère et sa grande amie, qui sont à ce moment-là, terminent leur lycée. Et la rencontre vraiment entre eux, ben voilà, on peut imaginer par exemple à l'occasion d'un camp d'été que lorsque la nuit tombe, eh bien finalement plus personne n'y voit rien. Et puis si les rencontres peuvent se faire, enfin bref. Bref, à la fin de l'été, elle est enceinte. Voilà. Donc la hiérarchie catholique à Paris a demandé à la voir et ont dit que ce prêtre allait être dirigé vers l'Algérie où il aurait beaucoup de choses à faire et puis surtout n'en parler à personne. Finalement, tout au long de cette période, ils ont continué à se voir une fois par an, à s'écrire, à s'assurer de leur fidélité, mais tout en faisant comme si ils pouvaient vivre l'un sans l'autre. Elle commençait à se fatiguer, puis j'étais sans doute une petite fille facile, mais enfin quand même, tout seul, c'est pas évident. Donc en 68... elle a fait en quelque sorte un ultimatum à mon père en disant que c'était trop pour elle, quoi, qu'il fallait prendre une décision. Il a décidé, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé qu'il allait rompre son engagement sacerdotal. Il a fait sa petite valise en carton et il est parti retrouver ma mère et faire ma connaissance. Ils ont acheté une maison dans le Tarn et donc un été, mon père s'est électrocuté et est décédé, donc en 73. C'est évidemment une situation dramatique. Que d'ailleurs certaines personnes ont considéré comme étant un châtiment. Hein. Alors oui, en disant finalement, hein, il a désobéi, voilà. Ma mère ne raconte rien. À tel point que ma plus jeune sœur, qui avait un an quand il est décédé, a réalisé très tard, elle avait 16 ans, elle a réalisé très tard que notre père était prêtre. Les mots viennent difficilement, c'est pas quelque chose dont on peut parler sans remuer des souvenirs douloureux.
Sisters, you don't anymore. You worship the sun, but you keep feeding the dead.
C'était Enfant de prêtre, un reportage de Karine Leloit, réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci à Léa, à Marie-Christine, à Anne et Mireille de l'association Les Enfants du Silence, ainsi qu'à Anne-Marie Mariani, la fondatrice de cette association. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.
Yelling that they're coming, but I don't see a single soul. They're all so busy yelling, not one of them is hearing the hissing from the bottom of the boat. I got some feelings up my sleeve, I got a compass in my arm, I got a needle in my heart, it's gonna tell us where we are.